France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les discours masculinistes prennent une ampleur croissante sur les réseaux sociaux et marquent une polarisation entre les femmes et les hommes des jeunes générations en matière de vote, par exemple, et notamment. Alors ce soir, un débat et plusieurs questions. Peut-on parler d'une guerre des sexes ou de guerre idéologique? Peut-on symétriser la parole féministe et la parole masculiniste? Que dit le courant masculinisme de la masculinité contemporaine et des rapports entre femmes et hommes depuis MeToo? Trois invités pour nous éclairer ce soir. Pauline Gontier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice, vous avez publié votre second roman en cette rentrée littéraire 2025 aux éditions Les Léonides. Il s'intitule Parthenia et il s'agit d'un roman noir qui se déroule dans les milieux des masculinistes. À vos côtés, Florence Porcel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes autrice, vous avez notamment publié Honte en un seul mot aux éditions J.C. Lattès. C'était en 2023. À vos côtés, Vincent Coqueberbe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et essayiste, vous avez publié ce mois-ci La guerre de sexession, c'est aux éditions Arquet. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
On est dans une société, voilà. On est civilisé, on a construit une société, on a bâti une société. Tu peux être une femme et avoir des avantages dans un certain contexte. Que l'homme t'a donné d'ailleurs, après avoir construit la société. Mais à la base même, être une femme, tu n'as aucun avantage. Tu es plus faible, donc tu cours moins vite, tu es moins forte, tu es plus émotive. Ton temps de réaction aussi, par la même occasion, n'est pas le même que nous. Et en plus de ça, tu donnes naissance. Donc pendant plusieurs mois, tu es faible. Durant les deux premières années de sa vie, tu es obligé d'allaiter ton bébé parce que sinon, il meurt. Donc il n'y a que des désavantages à être une femme à la base. C'est dur à entendre, ça fait mal, mais c'est la vérité. Et c'est ce que les féministes n'ont pas compris.
Les propos de l'influenceur masculiniste Alex Hitchens, il date de décembre 2024. C'est un personnage très suivi sur les réseaux sociaux. 400 000 personnes le suivent quotidiennement sur YouTube. Pauline Gontier, vous qui vous êtes immergée pour écrire votre dernier livre dans ces mondes masculinistes, comment est-ce que vous analysez ce discours-là? Est-ce que dans le fond c'est l'extrémité du spectre masculiniste ou bien c'est un discours assez répandu dans les marches que l'on décrira ce soir?
Non, je le trouve extrêmement commun pour le discours masculiniste et presque policé. Bon, il contient l'essentiel
presque
de...
Policé.
Presque policé, c'est-à-dire que là, il contient... Il parle d'une essentialisation des femmes. Voilà, c'est la nature qui veut que les femmes soient plus faibles. Et donc, il ne le dit pas ainsi, mais donc soumises aux hommes. Ce que j'ai pu voir en passant du temps sur les forums et en regardant des vidéos de masculinistes est bien plus violent que ça. C'est-à-dire que ça, c'est le constat de départ qu'il nous livre là et qui met tout le monde d'accord. Derrière, tous les masculinistes d'accord, évidemment. Derrière, moi, j'ai lu des appels au viol, des propos extrêmement haineux, extrêmement violents à l'égard des femmes qu'on n'entend pas dans cette vidéo-là. Donc, c'est absolument pas l'extrémité du spectre des masculinistes.
Et cette violence que vous avez trouvée en enquêtant, elle parlait de viol, d'appel au viol. Elle était exprimée par qui? Est-ce que vous le savez ou est-ce que tout s'exprime justement sous pseudonymat?
C'est justement une des difficultés, je pense qu'on en reparlera, pour la régulation ou le fait d'appréhender ce mouvement, c'est que tout est sous l'anonymat. Et je pense que l'anonymat et les réseaux sociaux qui permettant cet anonymat conduit à une immense violence. Donc tout est sous pseudo et je ne sais pas qui est derrière. Donc c'est pour ça que j'ai mené ensuite des études, lu des anthropologues, mais il est très difficile de savoir qui se cache derrière et il se trouverait que finalement c'est très répandu et que derrière ce discours-là se cachent des hommes de tout âge, de toute classe sociale. Donc c'est assez transverse en réalité.
Exercice de définition avec vous, Florence Porcel. On parle de masculinisme. De quoi s'agit-il? Quelle est votre définition pour commencer des masculinismes, parce qu'il y en a plusieurs formes, ils ont plusieurs visages.
Ils ont plusieurs visages, mais ils visent toutes une même idéologie, c'est de l'antiféminisme. Voilà. C'est les masculinistes estiment que la femme n'est pas l'égale de l'homme et ils se regroupent pour que jamais cette égalité advienne. Donc ça, c'est une base. Donc tout discours antiféministe est masculiniste.
Je voudrais vous faire entendre la voix de la journaliste Pauline Ferrari qui définit elle aussi le masculinisme et je vous ferai réagir les unes les autres.
Il y a beaucoup de sociologues, notamment Francis Dupuy-Déry, Mélissa Blé et l'historienne du féminisme Christine Barr, qui disent que le masculinisme, c'est une espèce de sous-branche de l'antiféminisme. Moi, je vais un petit peu plus loin dans cette définition en disant que maintenant, avec les mouvements en ligne, le masculinisme, c'est un mouvement social, politique, organisé, qui vise à rétablir, avec beaucoup de guillemets, cette domination masculine des hommes sur les femmes et de faire régresser le féminisme. C'est pas juste se préoccuper des problèmes des hommes comme on aimerait nous le faire croire, parce qu'on a tendance à se dire bah, les femmes ont le féminisme, pourquoi les hommes n'auraient pas le masculinisme? En fait, les mascus et les masculinismes ont pour but que les femmes n'aient plus accès aux droits qu'ont permis le féminisme.
Je voudrais vous faire réagir sur un terme en particulier, Florence Porcel, celui d'organiser le masculinisme, les masculinismes. C'est une démarche organisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif?
Oui, oui, bien sûr. Et on le voit dans l'actualité assez régulièrement. Par exemple, je prends juste un exemple très concret. Ce sont les associations de pères, par exemple, qui réclament la garde des enfants, qui insistent pour faire rentrer le syndrome d'aliénation parentale, par exemple, dans la loi ou dans les tribunaux, et alors que ça n'a aucune espèce d'existence scientifique. Enfin, voilà, ça, c'est juste un effet concret. Mais effectivement, ce sont des mouvements très organisés. On le voit notamment en ce moment aux États-Unis avec les patrons de la tech, notamment Mark Zuckerberg, qui a tenu des propos extrêmement masculinistes. Et on sait que tous ces milliardaires-là se regroupent pour faire passer des idées et des algorithmes, en l'occurrence, pour faire émerger ces discours. Donc oui, c'est parfaitement organisé, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde.
C'est nouveau tout ça, Vincent Coquebert, dans le fond, des discours qui se sont opposés d'une manière violente, virulente, aux femmes d'abord, au féminisme ensuite. On peut dire que c'est aussi vieux que le féminisme et même aussi vieux que l'existence des femmes et des hommes, non? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, aujourd'hui, dans les tendances que l'on décrit aujourd'hui?
Alors, évidemment, il y a toujours eu des discours virilistes, mais par exemple, en termes d'organisation, dès les années 70, il y avait un ancien militaire qui s'appelait Richard Doyle, qui avait créé le Men's Rights Movement, et qui était déjà, en fait, dans cette idée de défense, on va dire...
Le mouvement des droits des hommes.
Voilà, sur un plan juridique, finalement, les hommes qui seraient... quelque part mis de côté ou du moins embêtés par la justice et n'auraient pas les mêmes droits que les femmes. Et ensuite, après, ce que je distinguerais moi aujourd'hui, c'est les porte-voix du masculinisme, comme les hommes politiques, comme Trump peut l'être ou comme Elon Musk peut l'être, les entrepreneurs culturels du masculinisme qui eux en font un business et en fait s'adressent à une communauté et donc c'est quelque chose qui est monétisé et qui leur apporte finalement des gains et toute une masse un peu plus floue de jeunes ou de moins jeunes garçons qui, à un moment donné, pour différentes raisons, vont se radicaliser ou du moins être très perméables à ce type de discours.
En préparant cette émission, Vincent Coquebert, vous nous avez expliqué qu'il y avait une date qui marquait une bascule dans ce domaine, c'était la crise de 2008. On a plutôt l'impression en ce moment que la vraie bascule se passe au moment de MeToo. Qu'est-ce que vous avez identifié, vous, en 2008 en particulier?
Disons qu'en fait, ce qui s'est passé en 2008, et ce qu'on peut observer par rapport aussi à un pays comme la Corée du Sud, qui a eu ce qu'on appelle un peu une modernité compressée, c'est que à la fin des années 2000, avec cette crise en fait, qui est à la fois une crise économique mais aussi une crise symbolique, il y a une sorte de nouvelle lutte des places qui s'est créée, où une partie des jeunes hommes, en fait, se retrouvant en fait face à des femmes qui étaient meilleures qu'eux, en fait, en termes de, avec des diplômes plus élevés, avec parfois des, on va dire une capacité, enfin du moins ils étaient en concurrence tout simplement.
Un meilleur statut social?
Pas forcément du tout un meilleur statut social. C'est qu'en fait, je pense en fait que il y a eu chez une partie des jeunes garçons et des jeunes hommes en fait un sentiment de perte d'agentivité quelque part. On n'était plus on n'arrivait pas vraiment à maîtriser notre environnement. Le futur paraît un petit peu hostile. Et quelque part, les réseaux sociaux qui ont précédé vraiment cette crise, qui est à la fois une crise, on va dire, où le désarroi économique s'est transformé en désarroi identitaire, a trouvé une mise en narration dans ces espaces masculinistes, en fait, à leur malheur, avec une explication très simpliste, avec quelque part toute une idéologie qui est venue donner du carburant à une rancœur, à une culture du ressentiment, une culture de la colère, qui a été, voilà, qui finit par se radicaliser in fine.
Pauline Gontier, grâce à cette enquête que vous avez menée, que vous restituez sous la forme d'un roman intitulé Parthenia et qui vient de paraître, quand est-ce que vous identifiez justement cette bascule ? Est-ce qu'elle pour vous, est-ce qu'elle date de 2008 ? Est-ce que vous la datez un peu plus tard et notamment au mouvement de MeToo ? Quand est-ce que les choses changent et quand est-ce que le masculinisme contemporain se dessine ?
Alors, je pense quand même qu'il y a une bascule autour de MeToo, parce que quand on va sur ces forums, bon, déjà, ce mouvement-là est souvent incriminé et désigné. Un des cris de ralliement, c'est « Your body, my choice », « Ton corps, mon choix », qui est aussi vraiment un écho direct au slogan de MeToo. Donc, ça a été quand même la question de la sexualité.
Pardon, venez-moi pour bien comprendre « Ton corps, mon choix », qui dit ça et pour avec quel objectif?
Donc, les féministes au moment de MeToo, avec cette notion du consentement, disent mon corps, mon choix, c'est une chose très centrale. Et les masculinistes aujourd'hui utilisent souvent cette interjection, your body, my choice, ton corps, mon choix, pour dire ton corps m'appartient. Et c'est vraiment une réponse directe à MeToo qui est. Moi-même, j'ai fait une vidéo pour Brut il y a quelques jours. Quelqu'un est venu écrire cette phrase sous ma vidéo. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a quand même, MeToo marque un tournant parce que je crois qu'effectivement les masculinistes, du Puy d'Héry l'explique, le sociologue québécois, il y a un backlash dans les années 80, il y a une réponse directe au mouvement féministe. Et puis là, ça prend une autre ampleur. Alors je pense qu'il se passe quelque chose au moment de MeToo, même si je trouve très intéressant l'idée que dans un moment de crise sociale, économique, on cherche des boucs émissaires et que les femmes ont souvent été des boucs émissaires assez classiques. Donc voilà ce qui nourrit aussi ce courant-là. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches, moi j'ai été surprise. Donc je commence à travailler sur ce sujet en 2021, justement après avoir travaillé un premier roman sur l'histoire du féminisme. Et en 2021, en fait, je trouve assez peu de choses sur ce sujet. Et la Commission européenne commence à s'intéresser au mouvement masculiniste, donc qui est en ligne, comme mouvement violent, comme menace, même terroriste potentiel, en 2021. Donc c'est post quand même, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose là. Et puis ensuite, le développement des réseaux sociaux, des influenceurs a porté le mouvement, mais avec une dimension aussi, et vous en parliez tout à l'heure, Florence Pourcel, une dimension politique très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui donne la visibilité, et c'est une troisième phase à ce mouvement, c'est qu'elle est portée par Elon Musk, elle est portée par Donald Trump, elle est portée par Éric Zemmour. Alors voilà, moi en 2021, en fait, j'ai été très nourrie pour mon roman par la campagne d'Éric Zemmour, par des personnages politiques de première importance qui utilisent, et c'est dans mon roman, qui utilisent ces jeunes dont vous parliez, Vincent Coquebert, ces jeunes un peu paumés, pour venir servir à un projet politique qui n'est pas seulement masculiniste, qui est réactionnaire beaucoup plus largement.
Si je décris, Florence Pourcel, l'archétype que l'on dessine souvent dans la presse, dans les médias, de ces jeunes masculinistes, de ces jeunes incels, ce sont deux jeunes paumés, pour reprendre l'expression de Pauline Gontier, deux jeunes paumés qui ont pris comme une claque dans la figure le mouvement MeToo parce que leurs propres valeurs se sont alors décomposées et en réaction, en backlash, en mauvais français, eh bien, ils assument aujourd'hui d'être masculinistes et d'exprimer des phrases « Votre corps m'appartient en quelque sorte hein. ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie du backlash, Florence Pourcel ? Est-ce qu'elle permet d'expliquer peut-être la résurgence, le renforcement de ces discours masculinistes aujourd'hui ?
Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que les masculinistes, enfin, le masculinisme en général, ne se base que sur des sentiments, des ressentis de perte de droits des hommes par rapport aux droits des femmes, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Qui a le pouvoir politique dans le monde ? Ce sont les hommes. Qui a le pouvoir économique dans le monde ? Ce sont les hommes. Qui en fait, concentre tous les pouvoirs ? Le pouvoir médiatique, ce sont des hommes. Qui voit-on en extrême majorité dans les médias ? Ce sont des hommes. Enfin, je veux dire, tout le réel montre que ce sont les hommes qui ont le pouvoir toujours. Et en fait, le masculinisme a l'impression que les hommes perdent leurs droits et que ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, alors qu'il n'en est rien. Et autant le féminisme se base sur des faits et sur des constats qui sont mesurés par des études scientifiques, et qui se bat pour que, au contraire, les femmes aient des droits, et pas seulement les femmes, mais aussi les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, etc. Mais les masculinismes, au contraire, se base sur des sentiments. Et c'est ça qui est vraiment très étonnant, et surtout dans cette époque où on perd un petit peu contact avec le réel, où il y a des faits alternatifs, où il y a des vérités alternatives, et tout ça, en fait, je pense, se mêle.
Pauline Gontier, ça correspond à ce que vous avez trouvé à la lecture de ces forums, justement, le sentiment que ces hommes perdent une partie de leur pouvoir, en tout cas, c'est leur sentiment ?
En tout cas, c'est vraiment le départ du personnage central de mon livre, qui est Baptiste, et qui est un jeune homme qui arrive d'abord à découvrir ses communautés masculinistes parce qu'il a subi une rupture amoureuse et qu'il est isolé socialement, qu'il vit un peu seul, avec quelques liens affectifs mais peu nombreux. Et c'est à partir de cette frustration, vous en parliez, Vincent Coquebert, qu'il va être perméable à parce qu'on lui donne sur Internet une reconnaissance dans un jeu vidéo, parce qu'on lui donne des liens affectifs, qu'il va petit à petit être poreux à certains discours, bon, parce qu'il a été élevé aussi dans une société patriarcale et que déjà un certain nombre de choses qu'on a pu entendre dans le discours tout à l'heure de l'influenceur lui sont un peu familières, qu'il va basculer dans le masculinisme. Et effectivement, après, ce qui est assez dingue pour compléter le propos de Florence Porcel, oui, ce sont seulement des sentiments, mais dans la communauté masculiniste, ils essayent d'en faire de la science. C'est-à-dire que quand on va sur les forums masculinistes, il y a énormément, et c'est ça qui m'a surpris et que je reprend quasiment mot pour mot au départ de mon livre, des rubriques science, je parle beaucoup en anglais parce que leurs termes sont souvent en anglais, où ils détournent des articles scientifiques au profit de leur théorie. Et ils avancent beaucoup de chiffres, pareil, là encore, extraits de leur contexte. Donc ils essayent de scientificiser leur ressenti, comme vous dites. Mais c'est un peu un paradoxe saisissant quand... Et de même qu'ils utilisent un langage à eux pour donner à tout ça l'apparence d'une théorie, d'une raison qui se fonde au fond, et Florence Porcel l'a très bien rappelé, sur des sentiments, parce que la réalité, c'est que la domination masculine dans un grand nombre de domaines persiste.
Alors face à cela, des faits, des chiffres bien bien réels en France. D'après le baromètre annuel sur le sexisme, 52% des hommes de 25 à 34 ans considèrent que l'on s'acharne sur les hommes. Et 22% des 15-24 ans et 25% des 25-34 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Vincent Coquebert, face à ces chiffres, est-ce que l'on peut dire, assumer même, que ce mouvement masculiniste concerne d'abord et avant tout les jeunes hommes ?
Mais il concerne principalement les jeunes hommes, parce qu'on voit quand même des écarts entre les différentes cohortes, avec un discours encore plus radical et chez les plus jeunes.
Mais c'est paradoxal, pardonnez-moi, parce que l'on pourrait se dire, dans le fond, c'est la nouvelle génération qui connaît mieux MeToo, qui connaît mieux justement les sujets de lutte contre le sexisme, qui connaît mieux les enjeux de violence sexiste et sexuelle. C'est cette génération-là qui est la plus concernée par les discours masculinistes ?
Bah, en fait, oui, je pense que ce qu'on a observé, malgré tout, dans les études sociologiques des années 80 jusqu'à la fin des années 2000, c'est plutôt une homogénéisation des valeurs entre hommes et femmes. Et les hommes disaient même qu'ils se sentaient avec autant de qualités qui étaient dites féminines et vice-versa. Et on a observé donc une polarisation au début des années 2010 qui va un petit peu, moi, avec ce que j'avais appelé la civilisation du cocon. Qui est vraiment ce moment en fait historique où on est sur un repli qui est à la fois physique, on le voit bien avec ce culte du corps, avec une certaine passion pour la vie domestique aussi, d'une socialisation de plus en plus online, mais aussi un repli qui est à la fois idéologique, psychologique et affectif. Et il y a quelque part une sorte de retour à des modèles archaïques, qui sont des modèles finalement le modèle rassurant, qui quelque part va me donner l'impression en fait de comprendre un petit peu le monde. C'est aussi pour ça, c'est ça qui est très intéressant dans les études aux États-Unis sur les masculinistes, c'est qu'on se rend compte que ce sont eux, en fait, les plus masculinistes qui disent, en fait, qu'ils sont quasiment les plus heureux, les plus épanouis dans la vie. Parce qu'ils ont, une grille de lecture, évidemment, totalement fallacieuse et mortifère, mais claire, quelque part, qui ne sont pas dans le tiraillement du questionnement sur leur socialité, sur leur relation à l'autre, sur l'altérité. Ils savent qui est quelque part, qui est leur ennemi tout désigné, et ils se disent, bon, bah, moi, mon rôle d'homme, en tout cas, il est clair, il est comme ça. Donc, c'est aussi, voilà, une dynamique finalement de la on va dire, d'une sorte de pauvreté existentielle qui montre bien qu'en fait ce repli-là, c'est voilà, qui est un peu postmoderne dans le côté ultra technologique parce qu'il se passe sur les réseaux, et très archaïque parce qu'il renoue avec des valeurs qu'on pensait être passées.
C'est ça, les personnages que vous avez rencontrés sur ces forums, Pauline Gontier, c'est des gens bien plus heureux que des personnes anxieuses?
Alors non, sur les forums, moi surtout, ce qui m'a marqué, c'est que ces jeunes hommes, je présuppose que ce sont des hommes hein, derrière les pseudos, parce qu'on a dit que c'est anonyme, sont très malheureux. C'est surtout ça qui me frappe. Alors après, il y a plein de masculinisme, hein, mais je voudrais simplement revenir sur, ce sont les jeunes hommes qui sont les principaux cibles de ces influenceurs parce qu'ils sont les plus présents en ligne. Néanmoins, tout à l'heure, on citait Éric Zemmour qui a écrit, c'est en 2002, je crois, Le Premier Sexe, ou qui est un pamphlet masculiniste. Donc, c'est simplement que sa parole à lui s'exprime ailleurs que sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est très transgénérationnel.
Florence Porcel, une réaction?
Oui, sur la question des jeunes hommes, en fait, à ce sujet, le rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs est intéressant parce que ce rapport, il note que TikTok favorise la diffusion d'idéologies politiques négatives et contraires aux droits humains. Et donc, voilà, et ça cite le racisme, l'antisémitisme et aussi le sexisme. Et on a entendu Alex Hitchens tout à l'heure. On se rappelle qu'il a été auditionné et qu'il a quitté son audition sur un coup de sang, voilà, après des questions insistantes sur ses discours justement masculinisme sur lesquels le député voulait l'interroger et voilà. Donc il y a un certain nombre de recommandations pour justement éviter que les jeunes soient imbibés de ces discours dangereux et contraires aux droits humains. Donc
Vincent Coquebert, je reviens sur le titre de votre ouvrage, hein, La guerre de sécession. C'est une formule qui fait mouche, mais qu'est-ce que vous y mettez derrière? Est-ce que vous laissez entendre que les femmes, les hommes sont désormais sur le point d'être pratiquement en guerre les uns contre les autres, ou bien c'est qu'ils ne partagent plus et de moins en moins la même vision du monde?
C'est ça, c'est pas l'idée de la guerre des sexes qui renvoie vraiment un petit peu à un vocabulaire des années 70 où on mettait les... C'était quasiment une lutte folklorique, ça fait un peu titre de comédie de boulevard aujourd'hui, la guerre des sexes, on a l'impression d'avoir vu ça sur des affiches à Paris. Non, ce que je voulais dire en fait, c'est d'ailleurs je me basais sur les études qui étaient de plus en plus documentées à travers le monde en fait, sur une différence de valeur de plus en plus réelle, en tout cas chez les plus jeunes cohortes, qui vient exprimer à mon sens une désynchronisation des représentations, des désirs, des affects, et qui peut se... Et donc on sort un peu là de la question du pur masculinisme, mais qui vient raconter aussi la difficulté au niveau intime, la difficulté du lien, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans la vision de l'amour, dans la vision du couple, et ensuite au niveau collectif, les débats culturels qui peuvent être de plus en plus polarisés, et parfois des votes aussi et des valeurs qui sont de plus en plus différentes entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Donc en fait, avec ce titre-là, qui est évidemment une formule, c'était pour parler en fait de ce qui me semble être une désynchronisation un petit peu entre les représentations des uns et des autres.
Alors il faut dire un mot du vote hein, justement, et de la polarisation croissante entre les hommes et les femmes, puisqu'on observe un peu partout dans le monde, notamment en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, une polarisation croissante selon qu'on est un homme ou une femme. Je voudrais vous faire entendre la voix de l'écrivaine Rokhaya Diallo sur les discours masculinisme. C'était dans les matins de France Culture le 14 mars dernier.
Chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes, il y a des intérêts électoraux qui sont de plus en plus divergents. C'est-à-dire qu'on voit chez les jeunes femmes un intérêt pour des candidats, candidates qui portent des questions de justice sociale et de féminisme, alors que les jeunes hommes ont tendance de plus en plus à soutenir une extrême droite, effectivement, offensive et masculiniste. Et donc, moi, je m'inquiète, effectivement, de voir ces contenus masculinistes monter sur TikTok, sur YouTube, et influencer des jeunes garçons. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça a une influence très très forte chez les adolescents, c'est-à-dire qu'on a des discours de personnes qui disent que les femmes sont inférieures, qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles ne sont pas dignes de tenir des conversations avec les hommes. Et à côté de ça, on a des phénomènes de femmes aussi, hein, par exemple, qui vont pousser des idées très traditionnalistes. Par exemple, il y a cette notion de body count qui est très populaire sur TikTok, qui est le décompte en fait des relations sexuelles qu'on a eues au cours d'une vie. Eh bien, il se dit de plus en plus de la part de femmes conservatrices ou d'hommes masculinistes que des femmes qui ont un body count élevé sont des femmes indignes. Et donc là, on est dans une régression qu'il faut vraiment conjurer.
L'un des effets concrets de l'expansion des discours masculinistes, Pauline Gontier, c'est effectivement une polarisation croissante en matière de vote. Est-ce que, là aussi, parmi les enquêtés sous pseudonymat que vous avez rencontrés à travers la lecture des forums, est-ce que vous avez pu identifier une volonté de voter pour un candidat plutôt qu'un autre, en tout cas une traduction politique de ces discours ?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Vincent Coquerel, vous parliez de cocons. Ces cocons sont très perméables quand même. Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'hommes politiques d'extrême droite, et pas seulement en France, Zemmour l'a fait pendant sa campagne, mais ont très bien identifié qu'il y avait là un réservoir de vote en leur faveur. Et en se fondant sur peut-être des frustrations, sur des bouleversements qu'ont pu induire MeToo et l'interrogation de la notion du consentement, qui a sûrement désarçonner beaucoup d'hommes, il y avait potentiellement un vote réactionnaire à alimenter et qui n'était plus seulement masculiniste mais xénophobe, homophobe.
Mais en quoi cela remet-il en cause, pardonnez-moi, la théorie du cocon ? Après tout, on peut se dire ces responsables politiques ont identifié quelques cocons bien clairs, bien enfermés dans lesquels ils peuvent, j'allais dire, déverser leur discours pour tenter de les atteindre.
Parce que dans cocon et simplement parce que pour moi l'image est assez protectrice du cocon et imperméable, alors que non, il est possible par des stratégies médiatiques, ça a été assez bien expliqué et documenté pour la campagne de Zemmour pour la campagne présidentielle de 2022 où il y a eu sur Twitter un activisme de ses proches pour faire monter ses idées. Donc ce sont des cocons pas très protecteurs au fond pour les gens qui les habitent et très perméables à certaines stratégies politiques qui ne se cachent pas. Et c'est ça, et je rejoins les propos de Rokhaya Diallo, qui me fait peur, moi. C'est pas seulement le masculinisme, c'est son instrumentalisation par des figures politiques puissantes dans beaucoup d'États du monde.
Vincent Coquebert, une réaction, puisque c'est vous qui parlez de cocon en l'occurrence.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette idée. En fait, moi, ce que j'observe, c'est aussi une métapolitisation en fait du sexe et de l'intime.
Qu'est-ce que ça veut dire une métapolitisation ?
C'est que les visions de la féminité, les visions de la masculinité, les visions de l'amour, en fait, deviennent aujourd'hui un peu des marqueurs politiques aussi quelque part. Et le slogan des années 70, qui est Intimate is Political, aujourd'hui s'est aussi fait approprier par les néoconservateurs dans le sens d'une contre-politisation de l'intime, que ce soit Trump ou Orban, en fait, vont utiliser finalement ces leviers-là pour non plus être dans une logique une dynamique d'émancipation, mais une dynamique de sanctuarisation. Et sur la différenciation des sexes, sur des rôles très, très précis. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pauline Gontier quand elle dit que finalement ces cocons ne sont pas si imperméables à la réalité. C'est qu'aujourd'hui, ils entrent dans une dialectique où l'intime se politise, certes, mais la politique se sexualise aussi. Quelque part.
Il faut dire un mot des autres effets concrets de ces discours masculinistes. On a parlé du vote, mais il y a aussi peut-être l'impact le plus dangereux sur la vie, le corps des femmes, les violences sexistes et sexuelles. Florence Porcel, je redonne ce chiffre que j'ai énoncé un peu plus tôt. 22% des 15-24 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. C'est ça aussi la vision du monde de ces discours masculinistes au sens large ?
Ben oui, bien sûr, parce que tant qu'on n'aura pas déconstruit le fait que pour être un homme un vrai, il faut être violent, on en restera toujours là. Et c'est malheureusement ce que disent et répètent ces discours masculinistes et de plus en plus les politiques. C'est que voilà, il y a une essentialisation des hommes et des femmes. Les hommes sont violents, les femmes sont douces. Enfin, je veux dire, voilà, on en est toujours là en 2025. C'est quand même assez dramatique. Et d'ailleurs, je voulais rappeler, puisqu'on est dans les chiffres, qu'il y a 45% des hommes de moins de 35 ans en France qui pensent qu'il est difficile d'être un homme dans la société. Enfin, c'est quand même ahurissant. Alors que, si on parle de violences sexuelles, ce sont des violences qui sont quand même commises à 97%, je crois, par des hommes, avec des femmes victimes et des enfants en grande majorité. Donc, c'est quand même fou de voir le décalage absolument inouï qu'il y a entre le ressenti des hommes, qui sont pas forcément masculins, masculiniste d'ailleurs, et la réalité des faits.
Mais est-ce que ce ressenti est nécessairement infondé ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des difficultés propres au fait d'être un homme ? Et on peut éprouver, au fond, sans être antiféministe, des difficultés à être simplement dans la société, que l'on soit un homme ou non.
Oui, bien sûr, absolument. Le problème, c'est que très souvent, les hommes qui pensent qu'il est difficile d'être un homme dans la société tiennent des discours qui font qu'en fait, les femmes ont pris le pouvoir et qu'il y a cette espèce de vraiment de c'est difficile d'être un homme par rapport au fait d'être une femme, alors que vraiment, les faits démentent totalement ce ressenti.
Pauline Gontier, je reviens un instant sur les violences sexistes et sexuelles. Ce rapport à la violence dans l'enquête que vous avez conduite, est-ce que là aussi vous l'avez identifié ? Est-ce qu'il vous a semblé que ces personnes sous pseudonymat, majoritairement des hommes, on le devine facilement, sont violents, potentiellement violents, ont un rapport à la violence débridé ?
Ça, c'est très difficile, c'est une excellente question, parce que c'est très difficile de le déduire de propos tenus sur des forums. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ces propos sont tous très violents, c'est vraiment choquant.
Vous parliez d'appel au viol un peu plus tôt.
Oui, oui, et c'est écrit en lettres majuscules, les femmes sont toutes des putes, c'est écrit... Enfin, tous ces propos sont très violents. Et en pratique, je ne sais pas si ces hommes sont violents. Mais bon, ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est ce que j'essaye de mettre en scène à travers mon roman, à travers ce personnage de Baptiste, c'est que il y a un paradoxe. Ce sont des hommes qui ne se retrouvent pas, enfin mon personnage en l'occurrence dans le livre, un homme qui ne se retrouve pas dans les canons de la masculinité, qui n'a pas la mâchoire suffisamment carrée par rapport aux canons des masculinistes, qui n'est pas Brad Pitt, qui sait pas très bien se battre, et au lieu de se dire ma souffrance par rapport à ce modèle supposerait que je me tourne vers d'autres modèles, se trouve par, on va dire, le cercle des algorithmes, par ses fréquentations sur les jeux vidéo, endoctriné, et au lieu de se dire « ce modèle me fait souffrir », se dit « il faut épouser ce modèle-là ». Et il y a comme ça quelque chose, un réflexe un peu malade, un peu pathologique, d'épouser ce qui fait souffrir. Oui, c'est sûr qu'ils naissent dans des modèles violents et ils reproduisent ces violences. Et le cercle est vicieux au lieu d'être brisé.
Et pour tirer le fil de la violence, voici ce que relevait Mediapart. 3 attaques se revendiquant de l'idéologie incel, hein, un sous-genre plutôt du masculinisme, ont été déjouées en un an. La dernière en date à Saint-Étienne est pour la première fois entre les mains de la justice antiterroriste. Cette menace est prise au sérieux par les services de renseignement, mais encore méconnue des magistrats et avocat, voilà ce qu'écrivaient Marine Turquie et Bérénice Gabriel le 13 juillet dans Mediapart. Florence Porcel, l'antiterrorisme français désormais se saisit d'attaques terroristes qualifiées d'incel, qualifiées de masculinistes.
Oui, et c'est une très bonne nouvelle à mon sens, puisque les pouvoirs publics prennent la mesure du danger des incel et des masculinistes. Donc vraiment, le fait que ce soit qualifié de terroriste, pour moi, c'est une bonne nouvelle et c'est une avancée, puisque j'ose espérer qu'il y aura des moyens mis en œuvre pour combattre ces idéologies mortifères et délétères et dangereuses. Enfin, je veux dire, en tant que femme, je peux demain me faire assassiner dans la rue parce que je suis femme. C'est quand même délirant. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne nouvelle que ce soit pris très au sérieux par les pouvoirs publics.
Pauline Gontier, une réaction également, c'est une bonne nouvelle
C'est une excellente nouvelle, c'est une excellente nouvelle.
Une réaction peut-être cette fois-ci, Vincent Coquebert, sur le contre-feu que l'on pourrait opposer à ces discours masculinisme. On a souvent le sentiment que l'appareil d'État, les pouvoirs publics, les politiques publiques dans leur ensemble sont soit inefficaces ou du moins ont très très peu de prise face à la force des réseaux sociaux, des algorithmes, justement de ces cocons aussi qui s'organisent numériquement. Alors que peut faire la puissance publique pour tenter justement de tempérer, de contrer même ces discours?
Alors, pour les tempérer et les contrer pour des hommes qui ont 30-40 ans, je trouve ça assez compliqué, pour le coup, si on parle des personnes plus vieilles, parce que...
Vous êtes défaitiste?
Non, c'est qu'en fait, ils font un peu écho à ce que c'était l'écrivain allemand qui avait, Hans-Magnus Enzensberger, qui avait écrit en 2005 un livre super intéressant sur la figure du perdant radical, qui était un mélange de mégalomanie, de quête de bouc émissaire, oui, hein, de virilisme et de pulsion de mort. En fait, il parlait donc des jeunes terroristes qui allaient se faire exploser, en fait, donc cette espèce de mélange complètement instable. Pour les plus jeunes, je suis beaucoup moins pessimiste, et je pense qu'il y a eu, malgré tout, chez les forces progressistes, une manière, en fait, de... Parce que lassé des mauvaises conduites masculines, lassé, en fait, de cette ère du temps qui était excessivement phallocentrée...
Et qui concernait aussi leur rang, par ailleurs.
Oui, bien sûr, et qui ne... Mais par contre, qui n'ont pas parler aux jeunes garçons autrement qu'à travers le vocabulaire peut-être de la domination et du privilège, en ne leur offrant pas de contre-récit, en leur disant que finalement, même s'ils ressentaient une perte, parfois une perte de sens, un vide existentiel, eh bien, ils avaient une place quelque part dans le récit collectif et dans un récit positif qui donnerait pas cette vision si sombre du futur. Mais c'est pour le coup, c'est aussi un problème plus, pour le coup, plus systémique, parce que c'est, je veux dire, c'est le problème du politique chez à peu près toute la population aujourd'hui, où on n'arrive plus à créer des récits collectifs comme ça, où il y aurait une dialectique entre l'individu et le collectif qui serait positif et qui donnerait envie, en fait, finalement, de prendre part. Donc, c'est sûr que les algorithmes et la bulle des réseaux sociaux, à côté de ça, viennent, eux, apporter, encore une fois, des réponses simples, des ennemis identifiés et viennent nourrir, en fait, parce que la colère est vraiment une des grandes émotions de l'ère du temps et donc viennent nourrir cette colère-là dans une sorte de boucle de rétroaction négative, quoi.
Florence Porcel, est-ce que vous partagez l'inquiétude sur le fait qu'il est effectivement si compliqué, si difficile aujourd'hui de contrer ces discours, du moins de s'organiser pour tenter de les contrer ?
Oui, c'est compliqué, d'autant plus que depuis tout à l'heure, on parle essentiellement des réseaux sociaux, mais les médias traditionnels y ont leur part aussi. Et moi, ça, c'est ce que je dénonce. Enfin, notamment, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France est très intéressant parce qu'il souligne le rôle de l'ARCOM, le gendarme des médias, sur ce problème. L'ARCOM, de temps en temps, voilà, quand il y a des signalements sur des séquences parfaitement sexistes et misogynes, il peut condamner, mais jamais pour sexisme. Et en fait, là, il y a vraiment déjà, je pense, une avancée à faire et un progrès qu'il peut y avoir pour vraiment définir le problème. Dire que c'est du sexisme, voilà, bien définir le problème, c'est déjà l'identifier et pouvoir agir ensuite. Et les médias, je pense, ont une grande part de responsabilité dans la diffusion des discours masculinistes en règle générale et de plus en plus, malheureusement. Donc il y a, je pense, effectivement, un gros travail à faire sur ce sujet-là aussi, et pas seulement sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux sont un problème, bien sûr.
Pauline Gontier, alors c'est difficile, hein, dans ce trio, vous êtes la romancière, évidemment, mais si vous deviez établir, élaborer quelques recommandations, quelles seraient-elles ?
C'est justement plus facile parce que je suis romancière, donc j'ai pas forcément à me prononcer sur des propositions.
Alors allez-y.
Je rejoins quand même vraiment le fait qu'il y a une question de régulation des réseaux sociaux et puis une question de régulation de la sphère médiatique. Enfin, en tout cas, c'est essentiel parce que ça se passe, ça se joue ici quand même. Ma deuxième réponse, c'est que c'est une question de tout ça est une question de représentation et d'imaginaire. Donc je vais faire là la réponse de la romancière, il faut proposer sans doute d'autres représentations, des représentations plurielles et heureuses de ce que peuvent être les masculinités. Donc je pense qu'il faut, il est possible, enfin en tout cas c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans mon livre en prenant un personnage masculin qui au fil du roman évolue et qui à un moment donné est sous cette emprise et puis qui va aller vers autre chose. Donc il faut essayer de construire des récits ou qui donne d'autres représentations et d'autres modèles, sans doute, aux jeunes hommes d'aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les trois pour cette plongée dans les discours masculinistes et surtout pour vos analyses. Pauline Gontier, vous êtes autrice, vous avez publié en cette rentrée littéraire 2025 et aux éditions Les Léonides, Parthenia, un roman en noir qui se déroule dans le milieu des masculinistes et qui est particulièrement documenté justement sur ces discours, la violence qu'ils induisent et les personnages, même sous pseudonyme, qui les représentent. À vos côtés, Florence Porcel, autrice, vous avez notamment publié Honte, en un mot, je le redis, aux éditions J.C. Lattès, c'était en 2023, et Vincent Coquebert, journaliste, essayiste, vous avez publié ce mois-ci même La guerre de sécession, c'est aux éditions Arqué. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Juliette Moellic, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral, et à suivre juste après le journal pour tenter d'y voir un peu plus clair également sur la crise politique qui traverse la France. Eh bien, on va se tourner du côté de Shakespeare. Que nous enseigne Shakespeare en matière de crise politique ?